Chapitre 12e, beaucoup plus hardi. Il va sans dire que cette affaire de l'attaque de la villa fit grand bruit. Martin Numa, cependant, restreignit autant que possible la publicité. Son nom ne fut pas prononcé, ou du moins, si l'on sut qu'il fréquentait dans cette maison, si l'on apprit que souvent autrefois il y venait chercher quelques jours de repos, du moins tant le silence était bien fait, la consigne sévèrement exécutée, personne dans la presse ne put savoir que maintenant encore il s'y trouvait. Les noms de Prosper, de Philippe, ses fidèles lieutenants, ses successeurs, furent prononcés, mais le sien pas du tout. Ou du moins, personne ne montra Martin Numa comme ayant joué un rôle dans ces affaires sensationnelles. On le reconnut défunt encore une fois. Pendant quelque temps, cette affaire défraya la chronique policière. Puis, comme il arrive toujours, on eut d'autres sujets, d'autres préoccupations. Cependant, personne n'eut connaissance de l'affaire de la table du grand maître. « Pour celle-là, » dit Martin Numa, quand il me la raconta deux jours plus tard, « pour celle-là, je suis bien tranquille. Ce ne sont pas mes excellents nouveaux ennemis qui iront la raconter à la presse. Ni vous non plus, ni moi. Elle demeurera secrète. En somme, c'est une petite affaire très gentille qui s'est déroulée entre nous, entre bons ennemis. » Nous parlâmes alors de Philippe. « Mes lieutenants, » me dit Martin Numa, « me secondent admirablement. » Je ne dis pas qu'ils exécutent merveilleusement mes ordres. Ils devinent même ma pensée. On le dirait vraiment. Ainsi, ce pauvre Philippe, pendant qu'avec Prosper je suivais le plan initial, qui était de surprendre le commandant dans son refuge, Philippe, lui, sachant que nous pourrions nous tirer tous deux d'affaires sans lui, se mit tout seul et sans ordre à suivre le nouveau groupe de dissidents. C'est très bien, cette initiative. Il fit simplement un signe à Prosper et il fila. Inutile de vous montrer à quel danger ce brave garçon s'exposait. « Je le vois, en effet. » S'étant lancé sur cette piste, il tenait à aller jusqu'au bout et à ramasser le plus de documents possible avant de me faire connaître le résultat de son enquête. C'était très bien compris. Nous sommes arrivés, Prosper, Julot et moi, au moment où ce brave Philippe, tout seul, perdant tout instinct de prudence, se montrait et s'exposait à être reconnu par des gens qui le connaissent bien. Ils sont assez habiles pour reconnaître quelqu'un sous le déguisement le plus complet. C'est ce qui arriva. Martin Numa avoua. Je déclare que je ne m'attendais pas à tant d'audace, tant d'habileté de la part de ces gens. Ce coup du lasso est très ingénieux. Il a été exécuté dans la perfection. En d'autres circonstances, nous eussions admiré le coup. Mais là, il fallait penser à sauver votre infortuné compagnon. J'avoue que j'ai eu à ce moment un serrement de cœur. Quand j'ai vu Philippe tomber, faire un bond et être entraîné par le cou derrière cette motocyclette, j'ai cru que c'était un homme perdu. J'ai eu cette terreur de croire que mon lieutenant, mon compagnon, allait être tué sous mes yeux. Horrible! Tout ce que nous pouvions tenter, en nous dévouant pour lui, nous sacrifiant même, n'aurait amené aucun résultat. Philippe devait être tué, avoir la colonne vertébrale cassée, être étranglé ou être déchiré sur la route. Vraiment, mon pauvre ami, vous avez dû passer un moment terrible, atroce. Et dans cette minute, ayant conscience de mon impuissance et de l'inutilité de mes efforts, j'ai éprouvé une douleur, un chagrin, que rien ne saurait décrire, dont aucun mot ne peut vous donner l'ampleur. Oh, je le sens bien. Je voyais le corps de mon malheureux Philippe faire des bonds sur la route, comme une chose inerte. Quand tout à coup j'entendis le coup de revolver de Julot, et je vis tomber le bandit qui montait la motocyclette. Jamais, mon cher Courville, jamais je n'ai éprouvé une joie aussi forte. Oui, vous savez que je ne suis pas un sanguinaire, que j'ai horreur de la chasse. Que je déclare que nul n'a le droit d'enlever la vie à un être qui respire. C'est pour cela que vous détestez à ce point les assassins. Peut-être. Eh bien, mon bon Courville, j'étais heureux au suprême degré. En voyant tomber cet homme, la mort du bandit me vengeait de la mort de Philippe. C'était justice. Quand nous arrivâmes à Philippe, le malheureux gisait sur le sol. Mais dans quel état? Déchiré, les habits en loques, la figure pleine de sang. Pauvre garçon. Il semblait qu'on l'avait écorché. La route avait produit l'effet d'une râpe formidable. Son dos, ses bras, ses épaules, son crâne apparaissaient sans peau. La peau était arrachée, grattée, enlevée. Les chairs à nu saignaient et se couvraient de poussière, de sable. Ah, le malheureux. Je me penchai vers mon pauvre compagnon. À côté de moi, n'osant regarder, le corps de son ami Prosper pleurait. Mais bientôt, je poussai un cri de joie. Vivant. Vivant. Qui vivant ? Demanda Prosper, qui, dans la douleur, ne comprenait pas. « Qui donc est vivant ?»« Philippe. »« Allons donc, pas possible, chef. Vous vous trompez. Malheureusement, il est impossible que Philippe soit vivant. Il est étranglé. Il est mort. Mort, chef, il est mort. » Martin Huma était tout ému en me faisant ce récit. Il frémissait encore. Puis, continua-t-il, sans m'inquiéter de l'opinion de mon malheureux Prosper, j'ai vivement défait le lasso. C'était un lasso en laiton, en cuivre fin et d'une solidité merveilleuse. Le lasso pouvait traîner ainsi un homme ou deux, ou un poids beaucoup plus lourd sans risquer de se rompre. Par le plus grand bonheur, Philippe n'avait pas, au moment du danger, perdu la tête une demi-seconde. Le brave garçon. Oui, brave garçon. Quand il comprit qu'il ne pouvait éviter ce nœud coulant, et cela ne dura pas plus qu'un éclair, machinalement, instinctivement, porta les mains à son cou, renversant les pommes, c'est-à-dire présentant les pommes en dehors, comme on fait quand on saute sur un trapèze. Ainsi, il put saisir le lasso. Naturellement, le lasso glissa dans ses doigts et lui comprima le cou, mais cependant, Philippe, en plaçant ses deux mains ainsi de chaque côté de la gorge, évita la strangulation. Par ce moyen, le lasso ne lui coupa pas le larynx, ne lui brisa aucun cartilage. Philippe pouvait respirer, c'était déjà un grand point. Mais le pauvre garçon, dis-je, ne préservait sa vie que pour prolonger son supplice, car il ne pouvait espérer survivre, échapper à la mort, si celui qui l'avait attrapé le traînait longtemps derrière sa motocyclette. « En effet, répondit Martin Huma, mais dans pareil cas, l'intérêt de la conservation parle le premier. Il est probable que Philippe ne vit pas tout cela. Il ne pensa qu'à ceci, échapper à la strangulation. D'abord vivre, ensuite il verrait. Brave garçon. Et même, il ne se contenta pas de se préserver de la strangulation immédiate. Il conserva suffisamment de présence d'esprit pour tâcher en outre d'éviter le bris de la colonne vertébrale, qu'il ne pouvait manquer à la suite de la secousse formidable qu'allait lui faire subir le lasso en l'entraînant, ce qui était fatal. Pour éviter ce choc, Philippe se lança en avant comme s'il plongeait, très bien, de sorte qu'il se donna un élan qui atténua fortement la secousse. Je n'ai pu, en écoutant cela, m'empêcher de m'écrier. Mais ce Philippe a été tout bonnement admirable dans ce moment dramatique. Oui, fit Martin Huma, j'ai là un sportif. Un homme qui, comme Prosper et les autres d'ailleurs, est merveilleusement trempé.